BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigaudry.
BFM Bourse, dernière heure, on va décortiquer la tendance des marchés. Le CAC 40 qui est repassé clairement dans le rouge, moins 0,3% à 8183 points. À noter que la tech, en revanche, se porte très bien, plus 0,62% pour l'Euronext Tech Leaders. Et du côté de Wall Street, on a une tendance, bon, c'est à peu près la même chose, sauf que le Dow Jones, lui, est en hausse. Plus 0,1% et on a un Nasdaq qui gagne 0,56%. On est toujours sur des nouveaux records sur le S&P 500, sur le Nasdaq, etc. On a eu une tendance de marché qui est devenue un petit peu plus positive. Tout à l'heure, on espérait qu'il y ait des annonces concernant la géopolitique, l'Iran, les États-Unis, mais rien de précis n'est venu. À noter que ça a quand même laissé un impact positif sur les taux d'intérêt qui ont continué à descendre un petit peu. 4,46 pour le 10 ans américain, 2,96 pour le 10 ans allemand et 3,57 pour le 10 ans français. Il y a un secteur qui fait l'actualité aujourd'hui du côté de Paris. Encore une fois, ça fait une dizaine de jours hein, quand même qu'on peut noter qu'il est en train de changer de dimension, de prendre vraiment l'ascendant sur un certain nombre d'autres. Et puis surtout du sérieux et de la crédibilité au niveau international, c'est quand même celui des semi-conducteurs. ST Microelectronics qui gagne 1,8% à 59,04€. Mais la star du jour, c'est Soitec, plus 21,5%. 187,30€. Le titre gagne plus de 500% depuis le 1er janvier. Ça devient une histoire boursière assez singulière. Est-ce qu'on n'y va pas un peu trop vite, trop fort? Ou est-ce qu'on n'est pas vraiment à ce point pivot où les investisseurs internationaux sont en train de se dire « Non mais attendez, là il va se jouer quelque chose. » Ça s'est peut-être déjà joué du côté des États-Unis. C'est là qu'il va se passer des choses. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Taux, pétrole, en tout cas les choses se sont un petit peu calmées. Le pétrole 93,27$ sur le baril de Brent de mer du Nord. Et on a l'impression qu'on n'a plus de réaction épidermique. Vous savez, de grosses volatilités qui nous gênaient vraiment sur les taux d'intérêt. On l'a vu avec Gilles Mouek, d'ailleurs, tout à l'heure, un des points importants, c'est que vraiment, du côté allemand, ça se maintienne sous les 3%. Hein, on est à 2,95 là, en ce moment, sur le Bund. Est-ce que c'est durable, cette situation, ou est-ce qu'il va continuer à y avoir de la volatilité jusqu'aux prochaines prises de décision des grandes banques centrales? On va voir ça, on va analyser tout ça. Puis LDC, les recettes d'un véritable succès. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la défense, on parle beaucoup des semi-conducteurs aujourd'hui. Ben, y a la volaille, il y a le traiteur aussi. Tout ça, ça réussit à faire des étincelles dans un marché où on se serait dit « mais ils vont exploser en vol ». Ben non, au contraire, ils en profitent et c'est une trajectoire haussière régulière. C'est une très belle histoire, LDC. Et on va en parler, bien entendu, dans cette prochaine heure. En attendant, bien sûr, on va parler du reste de l'actualité du jour avec quand même pas mal de dossiers sur le feu. On est avec c'est cette année record quand même du fret aérien en 2025. On a encore battu un record en 2026. Ben oui, blocage du détroit d'Ormuz. Ça c'était le facteur X, le signe noir qu'on n'attendait pas forcément sur les 4 premiers mois de l'année 2026. Le volume transporté est en hausse de 3,6% selon les données de l'Association du transport aérien international. Et ce, malgré la situation au Moyen-Orient qui bloque certaines choses, mais qui en fortifie d'autres. La Cour des comptes a étrié aujourd'hui la nationalisation d'EDF décidée par Emmanuel Macron. Elle juge que la prise de contrôle à 100% de l'entreprise en 2022 pour quasiment 10 milliards d'euros était coûteuse et que sa nécessité n'est pas démontrée. Enfin, Bruxelles inflige à Temu une amende de 200 millions d'euros. La commission estime que la plateforme de commerce en ligne chinoise n'a pas respecté ses obligations pour limiter la vente de produits illégaux. Tout de suite, on ouvre le club BFM Bourse.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos invités du jour, Alain Dubrul de Claresco, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Louis de Fels de Gay-Lussac Gestion, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, un marché qui globalement n'est pas très décidé, mais enfin rien de grave, hein, on perd 0,23%, 8189 points pour le CAC 40. On est à peu près stable sur l'ensemble de la semaine, on fait un petit peu de yo-yo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette fois, ça y est, la poussière est retombée, qu'on a, mais alors, complètement mis de côté la géopolitique, du moins dans les cours, et qu'on dit, ok, on va les laisser mettre le couvercle sur la marmite, et pendant ce temps-là, on va s'attaquer au vrai sujet. Semi-conducteurs, défense, on a pu voir l'automobile qui commençait à bouger les lignes hier. Alain Dubrul, on va peut-être commencer avec vous. Est-ce que vous pensez justement que c'est ces secteurs qui commencent à reprendre le pouvoir sur le knee-jerk, les réactions épidermiques liées à la géopolitique, et que là, c'est peut-être un mouvement durable?
Durable, je ne sais pas. En tout cas, oui, le marché commence à être un petit peu agacé ou fatigué de ces nouvelles à répétition qui n'en sont pas, sachant que pour l'instant, le détroit d'Hormuz est et reste fermé. Donc là, on a vu dans l'après-midi, il y avait une nouvelle qu'apparemment, il y aura un plan qui serait prêt à être signé si Trump l'approuvait. Bon, je crois plutôt la vraie question, c'est si un jour, il y a un truc qui est signé, qui a l'air à peu près crédible, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Parce qu'on a des marchés qui sont au plus haut, on a des thématiques type semi-conducteurs et défense, en fait, qui sont celles qui ont marché, mais qui continuent de marcher encore. Et peut-être la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce que, quelque part, on achète au son du canon, et puis après, on vend le jour de la paix ?
Ouais.
Les marchés sont peut-être un peu price for perfection, comme on dit en anglais. Et donc là, je dirais, il faudrait faire attention. Alors, typiquement, on est quand même sur des niveaux élevés. On a eu de très belles publications de résultats avec un momentum de résultats qui est pour l'instant très bon. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi ? C'est quand même peut-être un ralentissement économique lié malgré tout à cette hausse de l'énergie, à ces pénuries de matières premières qui ne vont pas se résoudre en un jour, même si le détroit est réouvert. Et d'autre part, des thématiques défense, mais surtout semi, qui commencent à aller loin. Alors, c'est vrai que l'IA avance, etc. Mais justement, ce qu'on voit typiquement sur des STM, sur des Soitec, etc., c'est que maintenant, c'est plus la première division qui monte, c'est plus la deuxième division, c'est la troisième division. Si on peut faire une hiérarchie entre les valeurs.
Oui.
Et quand on voit des sociétés comme X-Fab, qui publie des résultats plutôt assez décevants depuis de nombreux trimestres, et on ne peut pas en dire plus de Soitec, parce que même les résultats de ce matin étaient plutôt faible.
Oui,
ils ont précisé que la division qui fait rêver tout le monde, qui fait aujourd'hui 15-20% du chiffre d'affaires, oui, ça va se développer, bien sûr, mais qu'ils ont quand même des limitations de capacité, donc ça va pas pouvoir aller. Ils vont réallouer un peu, mais globalement, elle va pas se transformer du jour au lendemain en un truc qui va faire x5 en chiffre d'affaires, alors que le reste reste toujours compliqué, qu'il y a des économies d'échelle. Enfin, sur Soitec, non, les multiples n'ont plus beaucoup de sens à ce stade, mais
c'est plus que du côté de Wall Street.
Plus de 11 fois les résultats, 11 fois le chiffre d'affaires, alors qu'il y a 80% du chiffre d'affaires qui est franchement pas terrible. Donc, ça veut dire que si on oublie à la limite le pas terrible, ça veut dire qu'elle se paye 50 à 100 fois le bon chiffre d'affaires. Même dans la tech, on a rarement vu des niveaux à ce niveau. Voilà, donc j'ai un petit peu peur des effets de troisième tour où effectivement les Américains, les grosses valeurs Nvidia et autres sont plutôt en mode de-rating. Il y a eu beaucoup de mid-cap américaines qui ont monté sur ces thématiques. Puis maintenant, on cherche les dernières qui n'ont pas monté. Alors ça profite à court terme, mais peut-être que c'est peut-être un signe de bulle dans ce domaine. C'est quand on va chercher les plus mauvais qui montent quand même.
Ouais,
c'est là qu'il faut peut-être commencer à être prudent.
Louis de Fels, votre truc en plus, c'est les small et mid cap, c'est un peu votre terrain de chasse. Et on a vu certains secteurs changer complètement de dimension cette année. Alors je pense évidemment à certaines valeurs de la santé, certaines valeurs de la défense, mais tout ce qui est semi-conducteur, ça a vraiment été un driver étonnant et ça continue à l'être.
Étonnant, ça qu'Alain l'a bien dit, ça qu'il y avait aussi une note du BES qui disait que l'IA, la thématique de l'IA était deux fois supérieure à la géopolitique et le problème de l'Iran. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu les chiffres stratosphériques du S&P sur le premier trimestre, plus de 26%, c'est incroyable, même s'il y avait un peu de mark-to-market, vous savez, avec les revalorisations d'Anthropic ou d'OpenIA, avec des valorisations phares. Il y a un très très bon momentum aux États-Unis avec toutes ces IPO et notamment SpaceX. Donc SpaceX a donné... tout le secteur s'est envolé, notamment Eutelsat, dont on parlait, il y a les Soitec, ça, qu'il y a toutes ces valeurs, on va dire, de piètre qualité, c'est ça ce qui est très difficile pour nous en tant que géants small limit cap. C'est vraiment la dérivée troisième qui arrive, les mauvais élèves qui sont en train de repartir très fortement. Eutelsat, plus personne n'en voulait depuis très longtemps. Soitec, c'était vraiment catastrophique les résultats. Là, ils ont encore annoncé des pertes énormes, tout ça, parce qu'en effet, on en parlait, ils sont dans la photonique. Voilà, donc si vous voulez être dans la photonique, il y a une très belle société anglaise qui s'appelle Alma, qui passait quasiment de 5%, quasiment 20-25% de son chiffre d'affaires dedans, mais qui fait beaucoup de mal. Donc voilà, nous, on préfère beaucoup plus ces sociétés de qualité. Mais voilà, ce qui est impressionnant, c'est la thématique IA est tellement forte. Vous avez vu, les CAPEX de tous les hyperscalers ont été beaucoup plus forts. Ils ne font que d'être révisés à la hausse. Et surtout, pour les premières indications pour 2027, c'est encore en hausse. Donc, moins fort que cette année. Cette année, c'est quand même plus de 80% de hausse, quand même, les CAPEX des hyperscalers. Ça sera jusqu'à plus de 800 milliards l'année prochaine, c'est juste stratosphérique. Et voilà, et c'est vrai que tout cet argent va commencer à arriver un peu vers l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs en Europe qui commencent à en bénéficier, qui vont commencer à gagner des contrats. Donc voilà, l'Europe, c'est vrai qu'on n'a pas les 5 mindset magnifiques, mais on a encore pas mal de valeurs. Donc voilà, et sinon, pour revenir aussi sur votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette thématique est très forte, mais si vous enlevez toutes ces valeurs-là, elles font pas grand-chose. Et c'est assez compliqué, parce qu'on a quand même eu pas mal de chiffres de sociétés qui viennent de publier leur premier trimestre, et beaucoup disent oui, le premier trimestre a été encore très bon, mais attention au deuxième. deuxième. Il y a les coûts de fret qui augmentent, il y a les prix de gaz et d'électricité qui sont en train d'augmenter. La plupart de beaucoup d'elles ont été hedgées, donc ça va. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça dure non plus trop longtemps.
Bon, mais finalement, est-ce qu'on se retrouve pas dans un double phénomène? Alors, à la fois, du coup, d'hyperconcentration, et là, on rejoint les problèmes des marchés américains, et en même temps, de granularité, c'est-à-dire qu'au milieu de cette hyperconcentration, on a des sociétés qui ne se ressemblent plus du tout les unes par rapport aux autres et qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux.
Il faut être assez sélectif, bien la question. Soitec, par exemple, on parlait il y a quelques semaines d'Extron, qui est une société allemande, elle a aujourd'hui, la photonique a un pourcentage plus élevé de son chiffre d'affaires que Soitec. Elle a un carnet de commandes qui est en vraie progression. Ils ont été très précis là-dessus, alors que Soitec ne l'est pas. Et typiquement, dans les deux cas, les valorisations sont assez élevées, mais peut-être qu'il y en a un côté où on a une croissance démontrée, alors que de l'autre, ça l'est moins. Mmh. Et puis, dans les signaux de bulle, ou en tout cas dans les points d'attention, c'est que, comme Louis l'a signalé, il y a les valorisations théoriques de SpaceX, on parle de 2 trillions, on parle peut-être d'une cotation d'OpenAI, etc. Il faut faire attention parce que d'abord, ces sociétés aujourd'hui qui sont potentiellement valorisées très cher, quand elles vont lever ne serait-ce que 50 ou 100 milliards sur une capite de je sais pas combien de trillions, c'est quand même de l'argent qui va devenir, c'est quand même des gros montants. Ouais. Donc il y a un effet de vase communicant. Donc si SpaceX lève 50 à 100 milliards, il va bien falloir qu'ils viennent de quelque part. Donc il pourrait y avoir des arbitrages, d'une part, et puis OpenAI plus particulièrement, c'est pas gagné, avec Anthropic et les autres, OpenAI, c'est à se demander si ça va marcher. Et donc si l'IPO d'OpenAI échoue parce qu'ils sont moins bons que les autres, il y a un effet malgré tout, même s'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs qu'eux, ça peut être un détonateur assez négatif sur le marché. Tiens, en fait, ça marche pas. Alors c'est vrai que si eux ne marchent pas, il y a les autres, mais OpenAI, ils ont fait des commitments colossaux de CapEx vis-à-vis d'NVIDIA et toute la chaîne.
Donc, il va falloir délivrer.
C'est comme dans le private credit, s'il y en a un qui commence à... En gros, si l'IPO de OpenAI ne se fait pas, c'est un peu une théorie de domino, c'est de dire ça ne marche pas, donc ils ne vont pas pouvoir payer le carnet de commandes qu'ils ont fait, ça va tomber, et après, c'est la réaction en chaîne.
C'est un écosystème fermé.
Réaction en chaîne qui serait d'ailleurs salutaire, parce que là, on monte sans limite. Donc peut-être que ce serait une respiration, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais c'est des points d'attention.
Oui, le momentum est tellement fort sur ces valeurs, je ne vois vraiment pas comment SpaceX, OpenAI ou Anthropic seraient des échecs. Je pense qu'en effet, les valos sont beaucoup trop fortes. Je pense que tout le retail américain du monde entier a envie d'avoir, ça va rentrer directement quand on a des gros poids dans les indices. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, en effet, je crois qu'on parle de 160 milliards de levée de capitaux. Et c'est vrai qu'il y a une note de Goldman Sachs qui est sortie hier qui disait, mais où est-ce qu'on va les trouver ces 160 milliards? Est-ce que ça aura un impact? En effet, est-ce qu'on va devoir revendre une partie du marché pour le faire? Et bien finalement, Goldman Sachs a fait toute une étude en disant quand Visa s'est introduit en bourse, quand Google s'est introduit en bourse, que c'était des montants pas aussi forts, mais à l'époque tout aussi importants en pourcentage des capitaux à ce moment-là.
Et Goldman Sachs, en plus des entreprises qui n'arrêtaient pas de perdre chroniquement du pognon, comme beaucoup de ces entreprises en ce moment. Mais non, justement, ils remettent les choses en perspective. Et c'était ça qui était intéressant.
Et c'était hyper intéressant. Et Goldman disait que le marché l'avait hyper bien absorbé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très très bon momentum. Je pense que tout ça, ça va être bien. Les publications du T2 vont être encore extrêmement bonnes dessus. Donc c'est vrai que je pense que le momentum va être encore très bon. Donc c'est pour ça que le marché fait des plus hauts. Là, on a vu que Goldman Sachs a encore raisé son target price à 8000 points sur le S&P. Donc ça fait encore un peu de hausse, notamment sur la forte croissance des bénéfices par action. On attend 23% de croissance des bénéfices par action au S&P cette année et encore 17 l'année prochaine. C'est juste phénoménal.
Alors, il y a un mois, on était à 20. Ouais. Et il y a 3 mois, avant la crise iranienne, on était plutôt à 16-17. Donc en fait, il y a des upgrades, même en Europe. C'est qui est fou, c'est qu'on a, pour l'instant, le marché est tiré par une vague de hausse. En fait, les secteurs prometteurs, les gens révisent à la hausse. Et ceux qui devraient souffrir, la consommation, tous ces secteurs-là, pour l'instant, ça tient et les gens ne révisent pas. Donc forcément, mais il y a un moment, peut-être que s'il y en a qui vont très très bien, il y en a d'autres qui vont moins bien. Il va falloir attendre, être assez vigilant.
Je vous tiens au mot. LDC, c'est pas une histoire de fou.
Oui, mais enfin
là, on est typiquement dans les secteurs dont vous parliez, dans la consommation, c'était touché par les phénomènes d'inflation, de problèmes d'intrants, d'emballage, etc. Ils arrivent à délivrer.
Oui, merci, ils sont bons.
LDC, pour moi, c'est la plus belle société familiale, une des plus belles sociétés familiales françaises. Déjà, ils ont quasiment une part de marché considérable sur le poulet, entre la Belle Rouge, ils ont le Coq Gaulois, ils ont plein de marques. Et ce qui est bien fait, c'est que ça profite aussi du downtrading. Il y a beaucoup de Français qui ne peuvent plus acheter du poisson, de la viande, donc ils vont acheter de la viande, le fameux poulet. Et ce qui est bien, c'est que c'est une société qui est complètement intégrée, qui est extrêmement bien gérée, qui sait passer l'os de prix au supermarché. C'est très difficile à le faire, notamment, rappelez-vous, au début janvier, c'est toujours la guerre de prix. On vous menace de retirer dans les étalages. Voilà, par exemple, une autre société comme Fleury Michon a eu beaucoup de mal avec la hausse de prix, alors qu'LDC, eux, sont vraiment très très forts. Et surtout, ils sont un peu sur le poulet n'est pas trop impacté par la Chine. C'est ça le problème, parce que les Chinois font du dumping. On l'a vu sur l'automobile, on l'a vu sur Bonduelle, sur le maïs. À un moment, les Chinois, ils avaient trop de maïs, donc ils ont inondé le marché français sur les maïs. Donc Bonduelle a fait un énorme warning. Ouais. Et heureusement, le poulet, en France, est souvent du poulet non congelé. Donc ça, c'est la vraie force, notamment d'LDC. Mais voilà, en tout cas, ils regardent très très proche les Chinois, même s'il y a des barrières protectrices. Ils nous disent que de toute façon, l'Europe, c'est une passoire totale. Donc même si de temps en temps, les premiers quotas sont impactés, eux, ils y vont fort. Et donc, ils surveillent ça très loin. Mais c'est vrai que c'est une société qui est extrêmement bien gérée, très forte visibilité, beaucoup de cash, c'est tout ce qu'on aime chez Gay-Sac Gestion. C'est vraiment la belle société de fonds de portefeuille qui s'en sort très bien en ce moment et qui est très décorrélée de l'IA, etc.
Étonnant, Alain Dubrulle. Alors vous qui avez, en plus, vous savez de quoi vous parlez, vous avez longtemps été un spécialiste de la distribution.
Ah ouais.
C'est vrai qu'LDC, c'est une très belle histoire et puis qui ne s'arrête pas, quoi.
Bah disons que moi, je regardais depuis longtemps, alors je trouvais que ça manquait un peu momentum. C'est vrai que de temps en temps, il y avait la hausse des prix des intrants qui leur posait des problèmes, mais là, c'est vrai, moi, je l'ai rentré dans le portefeuille de l'année dernière parce que j'ai trouvé que, bon, d'abord, la valorisation était intéressante. Et puis, il y a vraiment bon, d'abord, c'est une très belle société familiale, belle stratégie, etc. Et là, il y a un momentum particulièrement bon, en effet, parce que j'ai rarement vu une société qui est aussi à l'aise avec les hausses de prix. Enfin, ils expliquent qu'aujourd'hui, ils ont du pricing power, comme on dit.
C'est dingue.
Parce qu'ils ont des produits de bonne qualité, parce que il y a un effet substitution, en effet. Les gens mangent plus de poulet, moins de viande rouge, par des questions de coût, hein, tout simplement. Ouais. La concurrence chinoise, c'est vrai que sur le porc, par exemple, c'est parfois le marché du porc est très influencé par ce qui se passe en Chine. C'est pas du tout le cas pour les poulets. Et en fait, sur le marché de la volaille, on a soit les trucs un peu haut de gamme ou correct, c'est ce que fait LDC, soit d'une production plutôt low cost qui est faite en Ukraine avec des immenses fermes. Ouais. Production qu'on retrouve plutôt dans la restauration
dans
collective,
croustilles.
Par exemple Master Poulet, enfin, tous ces polémiques récentes. Mais en revanche, pour le truc que vous achetez, que vous cuisinez vous-même, c'est sûr que là, le poulet français, les gens apprécient. Et en fait, ils expliquaient, c'est qu'ils ont un modèle qui est relativement smart. C'est notamment toute la région de Sablé dans la Sarthe. C'est qu'en fait, c'est un modèle où en gros, ils ont beaucoup de petits producteurs sous-traitants.
Ouais.
Qui investissent dans un petit hangar, eux leur fournissent les poussins, le grain, etc. Et eux vont finalement exploiter ça comme une franchise. Mmh. Et ils disent que ça marche beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un métier qui demande sur les 3 mois pour élever un poulet, il y a des moments où il faut vraiment aller au charbon.
Oui.
Et donc, on n'a pas grand-chose à faire. Donc ça, quelque part, quelqu'un qui a un autre métier par ailleurs, ou qui travaille en indépendant, il peut s'y mettre avec son épouse dans les moments chauds. Mmh. Et puis, quand c'est plus calme, il peut avoir une autre activité. Alors que si vous voulez, dans un modèle intensif avec des gens à temps plein, ben là, il faut une ferme en Ukraine avec des millions de poulets et une centaine d'employés, enfin une usine, des choses dont on ne veut pas en France de toute façon.
Ouais.
Donc je trouve qu'ils ont trouvé un modèle assez smart, ils ont des producteurs partenaires assez fidèles, qui est assez résistant et qui en plus jouent bien la qualité. Et donc ça, je regrette globalement, croissance régulière, un bon pricing power. En plus, c'est une société qui a fait pas mal d'acquisitions en Europe. Voilà, enfin, et c'est une valorisation plutôt de food manufacturing, c'est-à-dire raisonnable.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est une des rares sociétés dans le food qui s'en sort très bien.
Ouais, ce qui est étonnant, 5,5%, en tout cas, c'était très intéressant.
Et 5,5% était très beau.
De hausse, ouais. 119 euros pour le titre LDC. On va faire le point sur la bourse. Là, il y a une grosse douzaine de minutes avant la clôture, moins 0,27%, on est à 8185 points. Pour le CAC 40, plus 0,68 pour l'Euronext Tech Leaders qui surperforme très très largement. Le DAX à Francfort, moins 0,48, moins 0,41 pour l'IBEX à Madrid, moins 0,35 pour l'Eurostox 50. Du côté des valeurs qui marchent bien à Paris, c'est clairement la défense qui est en tête avec les semi-conducteurs. Thales, plus 3,26%, 240,80€. STMicro, plus 2,60, on est à 59,44. Airbus, plus 2,34 à 177,78€. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Soitec qui gagne 23%. On en a beaucoup parlé après les résultats, 189,65€. Le secteur de la défense aussi, les valeurs en ex, les Exail, plus 11,6%, 145,10. Exosens, plus 8,2%, 68,65. tiens, on va en reparler justement de ces capitalisations qui sont en train de changer un petit peu de dimension. À la baisse, en revanche, Dassault Systèmes qui perd 5,5% à 18,69€. Ça y est, le jeu de massacre sur les sociétés informatiques reprend avec Mistral AI qui marque des points dans le domaine de l'industrie. Et ça, bah, ça fait du mal aux perspectives de Dassault Systèmes, évidemment. Pernod Ricard, moins 2,8%, 64,06. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Atos aussi, moins 6,4%. 39,42€. Oui, le Fels, dites justement tous ces secteurs qui sont en train de changer complètement de dimension dans les small et mid cap. C'est un peu embêtant parce que l'autre jour on parlait de small et mid cap qui en sont plus vraiment. Quand on commence à parler des Exosens, des Excel Technologies qui étaient des toutes petites sociétés à l'origine puis qui sont en train d'exploser en bourse. Les Médincelles qui ont fait leur apparition d'un coup dans le SBF 120, on se dit boum d'un coup, la santé, la défense, les semi-conducteurs, hein, la tech, ça rend peut-être encore plus exigeant le métier de gérant dans ces small et mid-cap.
C'est vrai que c'est le problème, c'est que le marché, sur ces marchés de small et mid-cap, c'est un peu ce qui se passe aussi sur les large cap. C'est le marché devenu très très binaire. Il y a trois secteurs qui marchent depuis deux ans, c'est simple, c'est la défense, tout ce qui est lié à l'IA, donc les semi-conducteurs et l'électrification. Tout le reste, aujourd'hui, ce qu'on appelle le style qualité, vous avez des belles sociétés de fonds de portefeuille, type les L'Oréal, les Air Liquide, qui génèrent du cash flow année après année, en ce moment, plus personne n'en veut. Tout le monde est dans la thématique, ça monte, donc on est un peu, on sait l'expression FOMO, il faut être dedans. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que vous prenez ces trois secteurs-là, si vous n'êtes pas dedans, bah vous avez des performances assez médiocres. Alors qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui ont publié des bons chiffres, des bons résultats, mais en ce moment, il n'y a que le mot à la bouche pour ces valeurs-là. Le problème, c'est qu'elles ont tellement monté, donc ça devient des plus gros poids dans les indices. Donc les gens, en plus, les rachètent encore. Donc ça fait un effet d'entraînement qui n'est pas forcément très sain, notamment voilà, dans les biotech, dans les hotelsat, on parlait tout à l'heure, les soytech. Et c'est vrai que maintenant, c'est redevenu des valeurs qui sont des gros poids dans les indices. Ouais. Donc ça distorde un peu les indices. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement décorrélées de ces indices. Et c'est un peu compliqué pour nous en tant que gestion. Parce que forcément, nos clients nous regardent toujours, ah tiens, par rapport aux indices. Donc, quand vous avez des stratégies de pure stock picking, plutôt de qualité, des valeurs plutôt de croissance défensive, donc voilà, il y a du LDC. Donc, LDC, ça marcherait très bien. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont comme ça. Nous, on aime beaucoup, par exemple, la thématique de la logistique, comme ID Logistique, comme Steph, qui sont des belles sociétés. ID Logistique a encore fait des publications juste stratosphériques sur le premier trimestre, notamment aux États-Unis. Ouais. Même la France n'avait pas à rougir. Et c'est des titres qui sont négatifs depuis le début de l'année. Ouais. Personne n'en veut. Les gens veulent, voilà. Vous avez cité la liste de valeurs là depuis des années, c'est stratégique parce que c'est des valeurs qui sont, quand je dis de qualité, ça veut dire que c'est des valeurs qui ne gagnent pas d'argent et qui ne gèrent pas de free cash flow structurellement. Voilà, aujourd'hui, les belles valeurs fonds de portefeuille, les belles valeurs de bon père de famille, comme on disait dans le passé, personne n'en veut en ce moment. Et c'est assez problématique, que ce soit dans les large cap comme dans les small et mid cap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils veulent faire de la performance rapide, donc ils vont vers ces valeurs pour gagner de l'argent très vite. Et je trouve pas ça forcément très sain. Et c'est vrai qu'Alain le disait tout à l'heure, c'est la dérivée troisième. Voilà, on était en première division avec les Nvidia, deuxième division avec les très, ben voilà, les Micron, tout ça, SML, qui sont des très, très gros candidats. Et quand vous regardez comme aux États-Unis, maintenant, il y a je sais pas combien de clubs de semi-conducteurs en Thaïlande aussi qui ont dépassé les milliards, 1000 milliards de
Trillion, ouais, même l'indice MSCI Emerging Market, il y a trois valeurs qui font plus d'un trillion.
C'est ça, avec
qui sont des
SpaceX, Samsung.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le semi-conducteur, les gens oublient que c'est un marché ultra cyclique. Voilà, donc aujourd'hui, les marges sont stratosphériques chez Nvidia, etc. On va voir quand les Chinois vont réussir à être tout aussi puissants avec des chips beaucoup moins puissants. Pourquoi ? Le pricing power perdra, la marge perdra. Donc vous avez beau avoir un PE pas cher, bah, si votre marge elle divise par un tiers ou par deux, bah, votre PE facial de 15-16 qui peut paraître pas cher, en fait, finalement, vous êtes 30 fois.
D'où ce problème de la fois de la surconcentration et à l'intérieur de cette superconcentration, de la granularité.
Le lead parade peut changer très vite. Enfin, OpenAI, il y a... Ah non, avant DeepSeek, c'était the one and only. Aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, les LLM, c'est pas forcément le Graal, et qu'en plus, il y a des concurrents qui ont émergé. Donc, les choses peuvent arriver très vite. Je pense qu'en tant que gérant de small cap, parce que c'est aussi mon cas, il faut savoir de temps en temps ne pas céder aux modes. Typiquement, l'année dernière, au premier trimestre 25, il y avait une hausse phénoménale de Telsat sur des espoirs qu'il y aurait une galaxie Starlink européenne, etc. Alors que c'était déjà dans les tuyaux pour 2030. Moi, je persiste à penser que même si l'Europe essaye de privilégier sa solution, le mur de CAPEX de cette société est tel que si on a un jour un truc souverain, ça sera payé par les États uniquement pour la défense, mais ça ne sera pas commercialisable. Alors, c'est vrai que récemment, là, on a dit, par exemple, que dans les partages de fréquences, Starlink ne pourrait pas tout utiliser, qu'il y aurait deux tiers qui seraient réservés à l'Europe. Alors, ça, toute chose égale par ailleurs, c'est forcément une nouvelle favorable pour Eutelsat.
Bien sûr.
Mais il n'empêche que le mur d'investissement de cette société, quand on voit l'avance qu'ont les concurrents américains, et on ne parle même pas des Chinois, ça, je ne vois pas comment ils vont y arriver. Peut-être qu'il y aura un réseau, un LEO européen, mais il sera subventionné et il existera parce que l'Europe veut qu'il existe, mais ce n'est pas l'actionnaire qui va gagner de l'argent dans ce genre de truc. Vous voyez.
Non, bien sûr que non.
C'est un peu comme EDF dont on parlait tout à l'heure. La Cour des comptes, EDF a été nationalisée. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a un besoin d'investissement colossal dans les centrales nucléaires. Si ça avait été coté, on aurait dû faire des augmentations de capital régulières et dilutives que l'investisseur n'aurait pas apprécié, et même les marchés auraient dit, vous, il y a trop de dettes par rapport au capital. Donc, ils l'ont nationalisé pour pouvoir la booster pour éventuellement faire du nucléaire ou pas. Mais en tout cas, c'est parce que ça ne pouvait plus passer par la bourse. Mais on la Cour des comptes se plaigne, d'ailleurs.
Oui, mais on en revient justement à ce problème du CAPEX. C'est que, voilà, quand on s'appelle Nvidia, on peut investir tout et n'importe quoi. Et...
Sinon, c'est un peu le problème de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a eu des thématiques souveraineté l'année dernière.
Voilà, exactement.
Par exemple, on pense à OVH. Évidemment, tout le monde aimerait bien qu'on ait un cloud souverain en Europe. Il y a quelques boîtes qui le font, mais OVH, quand on regarde d'où ils sont aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. J'ai du mal à penser qu'ils vont y arriver. Ou si on essaie de faire ce qu'il faut, on aura un truc au rabais européen qui fonctionnera peut-être à coup de subvention, mais pour l'actionnaire, je le sens pas.
Oui, de fait.
Mais c'est vrai que la grande différence par rapport aux sociétés américaines, c'est qu'elles génèrent du free cash flow positif, malgré leur capex. Ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers investissements des hyperscalers sont au-dessus des free cash flow pour la première fois. Donc elles doivent trouver leur business model. On l'a vu sur la publication du premier trimestre que les free cash flow commencent à être là. Mais le problème de toutes ces sociétés françaises dont on parle, Eutelsat, c'est, je rappelle que le free cash flow, c'est après CapEx. Donc avec les murs de CapEx qu'il y a, Eutelsat ne gagnera jamais un centime. Et c'est vrai que les règles de bourse, toujours, n'oubliez pas que le reflet futur de la valorisation en bourse, c'est ses cash flows futurs. Donc des sociétés comme Eutelsat, Soitec, qui ont brûlé du cash que depuis des années, moi ça me fait une pensée, une autre valeur qui est très connue en France, qui s'appelle Atos. Atos qui n'a jamais généré de cash. Bien sûr. A vu comment c'est fini. Donc c'est vrai que moi je dis attention à ce type de valeur.
Avec, Atos, encore le problème du... On est reparti dans le jeu de massacre... Sur les fabricants de logiciels pro, là on a Mistral AI. Alors là, l'ennemi est intérieur.
Oui, ça se craque. Mais ça revient. Il y a eu un petit rebond la semaine dernière sur les valeurs de logiciels, mais on prend qu'elles restent vulnérables. Alors là encore, il va falloir trier entre celles qui ont une vraie position, qui exploitent des données, qui sont propriétaires. Ouais. Je pense que c'est comme SideTrade qui était très attaqué, qui a divisé par 3 pratiquement son cours de bourse, mais qui a réussi à montrer qu'en fait ils maîtrisaient la donnée.
Bien sûr.
Et qu'un usage finalement assez modeste des GPU de Nvidia. En gros, ils vont dépenser 3-4 millions d'euros en GPU d'ici 2030, ce qui est rien par rapport à même à ils sont pas énormes, mais je veux dire, pour eux, c'est pas grand chose. Donc, parce qu'ils vont exploiter des données localement, en consommant pas trop de données. En revanche, d'autres modèles, oui, peuvent être totalement disruptés, et c'est là où il va falloir faire le tri.
Je suis d'accord, mais Dassault Systèmes, par exemple, notamment son rôle dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Le jour où Mistral AI arrivera à simuler aussi précisément que Dassault Systèmes des écoulements de fluides aérodynamiques, bon, d'ici là, je pense que Dassault Systèmes serait plus enclin d'être l'acteur qui va prendre la main à l'intelligence artificielle pour lui dire « aide-moi à faire ça en mieux et en plus vite ».
Le problème de Dassault aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ont, je pense, les moyens de s'en sortir, mais ce truc est une nouveauté. Donc, il faut qu'ils adaptent leurs outils pour en tirer profit.
C'est ça.
Mais ça veut dire, dans un premier temps, pour eux, d'ailleurs, comme pour les hyperscalers, plus de CapEx pour essayer de réadapter le produit. Et du côté des clients, il y a forcément un peu d'attentisme. Parce qu'on se dit, je vais peut-être, avant de me lancer dans une nouvelle suite logicielle, je vais peut-être attendre qu'ils arrivent avec une solution IA adaptée, ce qui pourra rebondir peut-être dans 1 ou 2 ans, mais en attendant, ça pèse forcément.
Et c'est exactement ce qu'a dit SAP. Ils ont fait tout leur grand route là, devant tout le monde. Ils ont dit short time pain, long term gain. C'est-à-dire qu'au début, ils doivent l'adapter. Donc c'est vrai qu'il y a une grande valeur comme SAP, qui a toutes les datas des clients avec le ERP, il a clairement dit qu'au terme,
ils sont au centre de tout.
Ils sont au centre de tout. Donc en fait, eux, ils ont loupé l'IA complètement. Donc ils vont dire qu'en fait, l'IA, ça sera du add-on. C'est-à-dire que vous allez intégrer l'IA, etc. Et en fait, ça ne va pas venir remplacer SAP. Parce que SAP, quand vous avez SAP, au moins, client, vous savez que c'est le sérieux du client, ça rassure. Donc ça va être de la donne. Mais la vraie question à terme, c'est le business model. C'est si la donne est tout pris par les hyperscalers ou pour ceux qui font l'IA et SAP, finalement, jouent juste une petite couche classique, bah, si le partage de valeur ne va plus autant chez SAP, c'est pour ça que ces valeurs-là dérèglent. Parce que pourquoi les payer aussi cher? Mais voilà, en tout cas, je suis sûr que SAP va très bien s'en sortir sur moins long terme, mais avec des valorisations un peu plus faibles.
Mathilde, plongée périscopique, s'il te plaît. Ouais, on a tout éteint. C'est Nautilus, octobre rouge, enfin octobre bleu. Ah, bonjour. Oui, Alain Dubrulle, votre data, puisque voilà, c'est la data room, hein, c'était ça l'important. Votre data du jour, 37%. Là, vous allez nous parler de gaz. Et on n'en parle plus depuis très longtemps. On parle pas mal de pétrole. Mais oui, mais où on en est en termes de gaz?
Voilà, alors 37%, bah, c'est le taux de remplissage des réservoirs européens de gaz au 20 mai. Alors, bon, vous savez que beaucoup de gaz est stocké dans des réservoirs souterrains. Donc, en hiver, on en ponctionne. Et puis, pendant le reste de l'année, pendant l'été, on en met de côté pour la rentrée, pour la période de chauffe. Le problème, c'est que ces 37% au 20 mai, ils se comparent à un niveau qui était de 46% l'année dernière. Et la moyenne des 5 dernières années, c'était 51%. Et si on regarde le niveau d'injection, parce qu'avec le temps qu'il fait, on injecte du gaz, on en consomme moins, eh bien, on constate aussi qu'il est très bas. Parce pourquoi? Parce que comme tout le monde s'imagine que demain, ça va aller mieux, aujourd'hui, les acheteurs de gaz, ils n'en achètent pas beaucoup, ils attendent que les prix baissent et ils compléteront pendant l'été. Mmh. Donc si on reste au niveau d'injection actuel, on sera à la rentrée à un niveau de 71%, qui est un niveau jamais vu, en fait. Et si on améliore peut-être pendant l'été, on sera à 76. Mais il faut rappeler que dans les autres années, on était au-dessus de 80. Et puis en post-Covid, enfin post-Ukraine, on avait demandé aux gens d'avoir plus de 90%. Donc le risque, c'est que si on reste comme ça et que ça n'évolue pas dans le Golfe, les acheteurs pendant l'été vont être en catastrophe, vont avoir besoin d'en acheter plus et à des prix qui pourraient, pour le coup, déraper.
Donc effectivement, ben oui, d'autant plus que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on n'en parle plus du tout du gaz, mais ça va rester un enjeu hein, ces prochaines années, c'est clair. Louis de Fels, 5,2%. Bah oui, c'est le 30 ans américain. Ça a peut-être été la cote d'alerte qui a forcé les négociations en termes géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis.
5,20%, donc le 30 ans américain qui a été touché il y a quelques jours, quoi, il y a 10 jours. C'est vrai que c'est un vrai seuil d'alerte, puisque je vous rappelle, la dernière fois, c'était en juin 2007. C'était peut-être un point des marchés, en juin 2007, hein, je vous rappelle. La crise des subprimes est arrivée après. Parce qu'il ne faut pas oublier, en effet, il y a un énorme momentum sur les BPA, on en a parlé tout à l'heure. Donc le marché monte. Mais à un moment, on ne parle que de la géopolitique, mais on oublie que les taux et les actions ne font pas toujours bon ménage. Une fois quand les taux montent trop fort, rappelez-vous en 2022, c'est quand les taux avaient touché les 5% sur le taux 10 ans US, c'est entre autres ça qui avait provoqué la baisse des marchés. Ouais. Donc là, des taux à 5,20%, ça rappelle juin 2007, quand on parlait tout à l'heure que voilà, première division, deuxième division, les troisième divisions qui montent, c'est les premiers signaux d'alerte. Est-ce que c'est le point de marché en ce moment? Aucune idée, le momentum est très bon. Mais voilà, il faut vraiment garder et surveiller l'eau comme le feu, notamment le 30 ans US, et pas que les US, il y a les taux anglais qui sont partis complètement dans le décor, les taux japonais complètement dans le décor, et tout ça, on pourra finir par le payer un jour, le jour où les momentum sur l'IA se calmera. Donc voilà, petite prudence.
Ouais, complètement. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Louis de Fels de Gay Lussac et Alain Dubrulle de Claresco d'avoir été animateur de ce club de haute volée. Restez avec nous, on termine l'émission dernière demi-heure. On commence dans quelques minutes, on va refaire la séance. Bien entendu, à tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et on termine en petite baisse. Cette séance pour le CAC 40, 0,23%, 8188 points. On a essayé de remettre un petit peu de dynamisme là, à une heure de la clôture, et puis finalement c'est retombé. Donc on termine à 8188 points, quand même une petite baisse. À noter quand même une sacrée surperformance de la tech. L'Euronext Tech Leaders lui termine sur un gain de 0,81%. À noter les autres indicateurs européens, moins 0,25% pour l'Eurostox 50, le DAX à Francfort, moins 0,34%, l'IBEX à Madrid, moins 0,5%. On a Milan, plus 0,4%. Et oui, étonnant, un Milan qui a gardé le cap de la hausse et qui l'a pas lâché. Du côté de Londres, on a perdu 0,8%. Les plus fortes hausses du CAC 40 ST Micro, plus 3,2%, 59,80€. On va en reparler très très largement de ce secteur des semi-conducteurs qui est en train de changer complètement de dimension. Vous l'avez entendu pendant toute l'émission, on a parlé quasiment que de ça. Mais vraiment, c'est un axe très très intéressant pour l'ensemble du monde boursier, là, en ce moment, ce qui est en train de se passer du côté des composants et de l'électronique en Europe. Thales finit avec une hausse de 2,7%, 239,60€. Tout le secteur de la défense était en belle progression à noter là sur le SBF 120. Exosens plus 9%, 69,20. Exel Technologies plus 13,2%, 147,10€. Et puis, des semi-conducteurs, le champion du jour, évidemment, Soitec, qui a gagné 24,6% à 192,20€. Les seules baisses marquantes, c'est encore le secteur des logiciels, des progiciels. On estime que Mistral AI est en train de tailler des croupières immanquablement au secteur des progiciels, notamment parce qu'il veut avancer vite et fort dans l'industrie, chez Airbus, dans l'automobile, etc. Dassault Systèmes recule de 5,7% à 18,65€. Et puis on a Atos qui perd 6,3% à 39,46€. Le marché obligataire, le 10 ans français 3,57, 2,96 pour le 10 ans allemand, 4,46 pour le 10 ans américain. Et puis du côté du pétrole, 93,15 pour le baril de Brent de mer du Nord et 89,66 pour le brut léger américain. Les volumes d'échange aujourd'hui à Paris, 3,8 milliards pour le CAC 40 qui termine sur cette petite baisse de 0,23%, 8188 points. Volume pas terrible, Romain Dobry, Bourse Direct, et puis quand même des supports qui tiennent, et ça c'est important à noter.
Oui, c'est ça. Des indices américains qui forment de nouveaux plus hauts historiques pour le Nasdaq et le S&P, tandis qu'on patine toujours en Europe. On accumule en partie haute, mais on manque de momentum, on manque de soutien sur les marchés dérivés. Les positions ouvertes indiquent à chaque fois qu'il y a de la spéculation, mais qu'on prend rapidement son bénéfice contre des zones de résistance. Les gaps aussi ouverts en début de semaine ont été comblés sur l'Eurostock, sur le CAC 40, mais préservés pour l'instant. Donc, tant qu'on est au-delà de 8159 à Paris, c'est stable et accumulation en partie haute. Il faut vraiment passer 8259 points pour réactiver la dynamique haussière. Aller chercher 8357, pourquoi pas 8624 points, qui serait un peu le Graal dans ce contexte. Le premier niveau d'alerte, c'est 8082. Encore une fois, du côté des marchés européens, la nouvelle pourrait être un catalyseur haussier sur les marchés américains. On a tellement payé chaque annonce d'hypothétique accord qu'on pourrait se demander si on n'est pas tenté de vendre la nouvelle si elle était actée.
Ah oui, ça c'est fort. C'est un scénario qui sortirait un peu des rails, mais qui n'est vraiment pas à exclure avec celle de News. Tellement on est dans un contexte jamais vu pour les dynamiques de marché. Merci beaucoup Romain Dobry, vous restez avec nous pour commenter les valeurs du jour. On refait la séance tout de suite maintenant.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Hervé Laurent de Groupama AM, bonjour.
Bonjour Hervé.
Un petit coup d'œil quand même sur les superstars du jour, les semi-conducteurs, évidemment. La Soitec qui a marqué des points de... Ouais, on est habitué aux hausses à deux chiffres en ce moment sur Soitec. Quasiment 25% en clôture de hausse, 192,20€. Une trajectoire boursière, depuis le 1er janvier, on dépasse les 500% de hausse. Et tous nos spécialistes qui se sont relayés à ce plateau, en plus, on a regardé les chiffres de Soitec ce matin, ils sont vraiment pas bons, en vrai. Hervé Laurent, votre avis, on y va peut-être un peu fort.
Oui, complètement. Ouais. Pour faire simple, le Q4 est quand même, le quatrième trimestre, est quand même au-dessus des attentes en termes de chiffre d'affaires. Mais si on regarde l'ensemble de l'année, malgré tout, on est sur un recul de chiffre d'affaires qui est très prononcé. Ouais. On est sur une marge opérationnelle qui est négative. On est sur un free cash flow qui est négatif également. Enfin, génération de trésorerie qui est négative. Et finalement, ce qu'ils annoncent pour le premier trimestre, c'est une hausse de 15% séquentielle, ce qui est un niveau énorme étant donné déjà le rebond qu'ils ont fait entre le Q3 et le Q4. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qui porte le cours de Soitec, c'est l'histoire de la photonique. C'est-à-dire qu'ils développent un substrat très spécial qui permet d'accélérer très significativement en fait, les calculs dans les data centers pour l'intelligence artificielle.
On le rappelle, c'est la transmission de l'information et de l'énergie
au lieu
par
de
la
se
lumière.
Faire par l'électricité, se fait par la lumière, donc il n'y a pas de frottement, donc c'est bien plus efficient énergétiquement et ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'aspect très positif. Maintenant, quand on regarde comment ça s'applique à Soitec, eh bien, ça amène un peu plus de nuances. Le photonique aujourd'hui pour Soitec, c'est en gros 100 millions de dollars, donc on va dire un peu moins de 100 millions d'euros, 90 millions d'euros pour arrondir. Et ce photonique, si on regarde un petit peu quels sont les chiffres attendus du marché, les gens estiment que ça pourrait faire entre x4 et x5 d'ici 2034. Alors 2034, c'est pas demain matin, c'est dans 8 ans.
C'est ça.
Vous prenez 90 millions et vous faites x5 dessus, bah vous arrivez à 450 millions d'euros. Soitec fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah finalement, ça manque un peu si on veut la valoriser 190 euros, sachant que 190 euros, c'était la valorisation qu'avait Soitec lorsqu'elle réalisait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires et lorsqu'elle faisait 30% de croissance par an. Donc, on a mis un peu la charrue devant les bœufs, à mon sens.
Ouais, faut pas oublier ça. Faut pas oublier aussi d'où vient Soitec. Et c'est vrai que point de vue court, enfin, si on regarde et d'ailleurs, on va regarder ensemble ça avec Romain Daubry de Bourse Direct qui est resté avec nous. Si on regarde la courbe à 5 ans de Soitec, c'est une dégringolade continue. Et puis une remontée en fusée là depuis quelques semaines. Romain, là les prochains objectifs, ça nous ramène à quoi à 2023 ou est-ce qu'on est en route vers les derniers plus hauts historiques hein, qui datent de 2021?
Alors, on reviendrait à des niveaux cibles qui datent de 2021 effectivement. Tant qu'on est au-delà de 180, c'est le scénario de poursuite haussier. Il faut dire que Soitec avait fait une pause depuis le début du mois de mai entre 140 et 180. Le fait de déborder cette résistance permet de dupliquer ce trading range par le haut et d'envisager un retour à 220. Attention quand même au retour sous 180 parce qu'on aurait dans ce cas-là une invalidation, la validation d'une structure de retournement baissière qui ferait perdre une vingtaine de pourcents au titre avec un retour en direction de 140 au moins. Donc on est un peu sur le fil. Pour l'instant, on a progressé, on a débordé ce niveau et avec du volume, donc pas d'alerte, mais attention à des faux signaux. Il faut vraiment préserver ce niveau pendant 24-48 heures pour s'assurer que le mouvement est bien pérenne.
Oui, Hervé Laurent.
À ajouter, c'est ouais. Que la valeur est très recommandée par des réseaux sociaux aux États-Unis et qu'on sait que ce type de personnes qui font ce genre de recommandations peuvent les retourner du jour au lendemain. Et dans ce cas-là, ouais. Ça se retournerait dans l'autre sens et les Américains ont quand même beaucoup de puissance. Le client particulier américain, par sa masse et son argent, peut mener à des mouvements.
C'est TikTok, sur Reddit, paraît-il. C'est sur TikTok.
Ouais. Ouais.
Soitec, star de TikTok aux États-Unis.
Non, mais on aura cru.
C'est un truc de fou. Le groupe grenoblois, Soitec. Très vieille histoire d'amitié dans l'écosystème des semi-conducteurs en Isère, avec des connexions du côté de l'Italie, qui ont donné ST Microelectronics, voilà, d'ailleurs, hein, dans un autre genre. Alors, c'est vrai que Soitec, c'est un dossier peut-être un petit peu chaud bouillant, difficile à saisir. Si on veut investir dans les semi-conducteurs, il y a peut-être deux, trois autres idées qui paraissent un peu plus évidentes.
Nous, on préfère, par exemple, ST Microelectronics, oui. Qui est fortement également exposé à tout ce principe des data centers. Hein. Alors, un peu via la photonics, grâce à son alliance avec Soitec, justement. Donc, on en bénéficie de manière indirecte de la photonique. Ils sont également présents sur tout un ensemble de microcontrôleurs qui sont nécessaires dans un data center, par exemple. Ouais. Et par ailleurs, ils ont des capacités de production qui sont encore assez peu remplies aujourd'hui. Et donc, ils ont un réel potentiel d'augmenter leur taux d'utilisation. Donc, on trouve que c'est une de celles, finalement, qui, en termes de valorisation, reste la plus raisonnable et qui permet toutefois de bénéficier de ce trend.
Alors, je suis en train de dézoomer sur ST Microelectronics.
Le rebond récent est également très fort, oui.
Mais si je regarde sur 10 ans, c'est une histoire de fou. Romain Daubry, c'est la première fois, et je le fais avec vous, que je regarde la courbe d'ST Microelectronics sur 10 ans. C'est quoi cette folie furieuse? Enfin, ça. Là, bon, il y a un creux de la vague quand même ces deux dernières années. Et puis une remontée en fusée là aussi. Mais si on fait la moyenne de tout, on est sur une courbe de progression qui paraît absolument rectiligne. Encore une fois, voilà. Si on fait la moyenne de tout.
On est sur un train de long terme qui est effectivement assez bon.
Romain?
Oui, elle est coutumière du fait, hein, STM, elle l'avait fait, elle avait stagné de 2007 à 2016, hein, pendant 10 ans, dans un petit trading range aussi, avant d'accélérer brutalement et d'aller chercher des résistances à 47,40. La baisse ensuite de 2023 jusqu'au mois de juillet 2025, et depuis juillet, ça n'arrête pas, c'est une progression effectivement continue et linéaire. Si on duplique le range actuel dont on est sorti, eh bien on peut envisager encore des progressions en direction de 66,40. Attention quand même à des mouvements qui sont hyper rectilignes, dans lesquels on n'a aucune pause. Il y a des petits signes de tension graphique et technique pour l'instant, mais en tout cas, aucun signal d'invalidation à court terme.
Merci Romain Dobry, mais restez pas loin parce qu'on a un autre avis à vous demander tout à l'heure, ça va être un peu notre pépite du jour. En attendant, Hervé Laurent, on va regarder un petit peu l'autre gros secteur qui a joué aujourd'hui, c'est le secteur de la défense. Alors, c'est un petit peu compliqué, c'est des dynamiques difficiles à cerner la défense en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a eu un essor considérable pendant quelques mois du fait des anticipations de dépenses d'investissement européennes. Ensuite, on a l'impression que tout s'est un petit peu calmé. Il y a la géopolitique qui est revenue et qui a apporté un catalyseur supplémentaire, mais on a l'impression que ça a du mal à infuser. Comment vous voyez ça? On en est où?
Vous avez effectivement bien résumé les trois phases. Hein. C'est phase 1, énorme investissement et ou plan de relance axé sur la défense. Phase 2, effectivement, le démarrage d'Hormuz. Et phase 3, on peut dire en fait que les analystes se sont dit à un moment donné que la défense dans son ensemble était un peu dépassée ou disruptée par les drones. Et il se trouve que les drones, il n'y en a pas tellement de côté en bourse. Il y a Parrot ou Exel Technologies, mais sans ça...
Oui, ou Drone Vol.
Voilà, et donc effectivement, le secteur de la défense dans son ensemble a plutôt baissé sur ces considérations-là.
D'accord.
Alors que nous, chez Groupama, nous ne partageons absolument pas. Notamment, on considère que le secteur de la défense a été finalement en déclin structurel depuis la chute du mur de Berlin, donc plus de 30 ans en fait de déclin des budgets de défense. Et en fait, le retard qui a été acquis est tellement élevé, il y a une sorte de dette technique, ce qu'on appelle, d'accord, qu'il y a besoin d'investir sur des très longues périodes pour reformer en fait la base des armées. Et les drones, on le voit en réalité, ne supplantent pas typiquement les chars de Rheinmetall, puisqu'ils ont maintenant des défenses anti-drones embarquées sur les chars. Ouais. Ils ont des systèmes de protection supplémentaires. On a vu des grillages, mais également des jupes un peu plus... jupes métalliques, un peu épaisses, et qui permettent en fait aux nouveaux chars qui sortent aujourd'hui d'être tout à fait adapté. Et une chose que me disait un général quand j'avais été visiter le site de production de Rheinmetall, c'est que les chars en fait restent tout à fait pertinents dans une armée, puisque c'est le seul canon d'artillerie qui arrive à avancer à 60 km/h en avant, à tirer et à repartir 60 km/h en avant derrière. Et l'intérêt, c'est que finalement, quand vous êtes frappé, vous pouvez plus retourner le tir sur le char, il a déjà disparu. Ce qui est un avantage par rapport à l'artillerie classique, par exemple.
Non, mais souvent, quand on se pose ces problèmes de disruption, l'IA va disrupter les fabricants de logiciels, etc. Comme si les drones allaient disrupter totalement la...
C'est un élément supplémentaire, maintenant, des armées, qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas un élément qui va rester seul composante de l'armée, évidemment.
Oui, effectivement. Donc, et puis, vous, le titre que vous aimez bien et que vous suivez, qui est lié évidemment à la défense, c'est Airbus.
Tout à fait, effectivement, c'est 15% du chiffre d'affaires, la défense, donc ça reste petit, mais effectivement, c'est une société qu'on aime bien. Notre thèse sur Airbus, alors ça va au-delà de la défense, même si effectivement c'est un moteur supplémentaire, c'est simplement la constatation un petit peu de l'historique des rapports de force entre Boeing et Airbus. Vous savez que depuis en 2021, Boeing a d'énormes problèmes de production. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est assez simple, c'est que les compagnies aériennes qui devaient donner des commandes soit à Airbus, soit à Boeing, historiquement, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient voir l'un puis l'autre, et puis elles arrivaient à discuter des rabais qui étaient très importants. Hein. Les rabais peuvent atteindre 50-60% sur les avions par rapport au prix affiché lorsqu'il y a des grandes commandes. À partir de 2021, en fait, il s'est passé une chose, c'est que la compagnie aérienne n'avait finalement plus vraiment la solution, puisqu'il n'y avait que Airbus qui arrivait à monter en cadence et à produire des avions qui fonctionnent. Ouais. Et donc, nécessairement, les rabais accordés par Airbus à partir de 2021 ont été, à notre avis, bien inférieurs à ce qui se faisait avant. Ce qui veut dire que ces avions rentrent en production aujourd'hui dans les années à venir et donc on devrait avoir un effet positif sur la marge.
D'accord. Bon, mais ça, c'est
une croissance qui garde une excellente visibilité puisque le carnet de commandes est de 8 ans et demi.
Plus 2,3% pour Airbus qui s'en est bien sorti aujourd'hui. 177,70 €. 30 secondes pour parler d'une des autres valeurs du jour. On ne parle pas défense, on ne parle pas IA, on parle
poulet.
Avec le LDC des familles là, qui grimpe de plus de 5%. Incroyable.
Valeur de fonds de portefeuille et qui bénéficie finalement d'un état de fait qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on perd du pouvoir d'achat, on n'a plus assez d'argent pour acheter du bœuf. Qu'est-ce qu'on achète à la place? Un poulet pour le dimanche midi.
Mais oui, mais les intrants, les emballages, la hausse des coûts des matières premières, enfin, ça aurait dû les démolir.
Et non,
au contraire. Ils trouvent de la force.
Tout à fait. C'est l'élément prix dans leur croissance est compris entre 7 et 11% sur les derniers trimestres. Et effectivement, ça vient du fait qu'ils ont une part de marché qui est devenue maintenant assez écrasante et ils sont assez premium. C'est notamment les poulets de Bresse ou les poulets Label Rouge, ce qui leur permet vraiment de répercuter les prix sans trop de difficultés. Ça devient presque un moteur de croissance supplémentaire.
Vous avez 10 secondes, Romain Daubry. La configuration d'LDC, ça donne quoi?
Évidemment, c'est haussier. On vient d'atteindre une cible graphique aujourd'hui, 120,80. Ça peut être le tempo pour prendre un peu de bénéfice, mais bon, c'est effectivement un fonds de portefeuille, aucun signal de retournement pour l'instant. Ouais. Si on arrive à déborder ce niveau, le prochain majeur, c'est 126,60.
Trop fort. Merci beaucoup, Romain Daubry. Bourse Direct, plus 5,7% pour LDC, 119,20 €. Hervé Laurent de Groupama, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter toute l'émission, toutes les chroniques de l'émission et tous les éditos sur le replay, sur le podcast. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de BFM Bourse. À demain.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.